Bonjour, chers amis auditeurs. Alors, notre balade des églises et chapelles du Lot nous amène à nouveau donc à Arcambale, où nous étions la semaine dernière, mais il y a tellement de choses à voir et tellement de belles choses à découvrir que nous y sommes restés parce que c'est vraiment très bien. Donc nous étions dans le chœur, nous étions devant ce bel hôtel du 19e siècle, et tout de suite à la gauche de cet hôtel et qui donne dans le chœur, il y a la chapelle des Châtelains. Je crois que j'ai dit le bon mot, Christian, avec qui nous sommes à nouveau. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors donc la chapelle des Châtelains.
Des châtelains ou du château, enfin on utilise
bon, les deux termes,
qui se trouve au nord.
Voilà, et qui donne donc dans le cœur.
Dans le cœur directement.
Voilà, dans le cœur. Alors,
nous nous dirigeons
vers cette chapelle. Voilà, elle est superbe, tout en pierre également. Alors, Christian, vous aviez des choses à nous dire.
Alors, cette chapelle, on l'appelle la chapelle des Châtelains parce que vous remarquez que sur le mur nord se trouve une porte.
Ah oui, en bois.
Une porte en bois qui est pas en très très bon état, mais enfin elle existe, elle est fermée à serrure là. Elle donne directement dans le territoire qui nous amène au château.
D'accord.
Cette chapelle était utilisée par les Châtelains pour rentrer directement dans l'église. Et vous voyez, elle donne directement dans le cœur, même à l'intérieur du cœur, puisque vous voyez qu'il y avait la table de communion qui existait il y a quelques années, qui n'y est plus maintenant, et de l'autre côté.
D'accord.
Nous sommes directement dans le cœur.
Oui, oui, d'accord.
Et Madame la baronne de Goutte, à qui j'en ai parlé, lorsqu'on était venus ensemble la visiter, m'a avoué, alors c'est pas très flamboyant comme remarque, que...
Ça fait rien, dites-le, nos auditeurs vont être contents de savoir.
Les châtelains étaient très contents de pouvoir entrer directement dans le chœur, assister à la messe dans cette chapelle, sans se faire voir des paroissiens. C'est-à-dire qu'ils avaient une espèce de vie à part de la paroisse, pouvant assister à la messe sans jamais rencontrer les gens du village. Ce qui est quand même pas très, très glorieux. Enfin, bon.
Oui.
Voilà. Mais, alors,
la croisée d'ogives, oui, que nous, en levant la tête, nous voyons.
C'est plus qu'une croisée d'ogives. On est déjà presque à l'art flamboyant où on a des nervures beaucoup plus complexes, si vous voulez, comme dans le cloître de la cathédrale. Mais c'est pas encore très, très complexe, mais ça commence à l'être plus puisque la croisée d'ogives dans l'autre chapelle,
oui,
qui est la sacristie maintenant, est simple. On a quatre nervures, alors qu'ici, on a déjà quelque chose d'un peu plus complexe.
Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui est représenté, Christian, donc, sur cette... on aperçoit un blason, quelque chose, au milieu.
Un blason, alors avec une écriture en latin, que j'avais fait traduire par Marie-Thérèse Beau, je ne me souviens plus exactement, parce qu'on voit très mal, on ne peut même pas la relire.
Oui, c'est très noir, effectivement.
J'avais identifié, mais je ne peux pas vous dire... exactement, qu'est-ce qui est écrit. Alors,
d'accord,
ce qui est le plus curieux, c'est qu'il y a un petit hôtel.
Oui, lorsque nous entrons dans la chapelle, cet hôtel se trouve à droite.
Voilà. Donc, dans le même sens que l'hôtel d'origine dans le chœur.
Mm-hmm.
En dessous, sur la partie murale de l'hôtel, en dessous de la table d'hôtel, en fait, vous voyez une femme allongée.
Tout à fait.
Et cette femme allongée, son nom est inscrit en dessous,
Sainte-Germaine. Ah, voilà.
Sainte-Germaine, qui est une sainte révérée dans tout le sud-ouest, notamment.
Tout à fait.
Et qui vient de Pibrac, c'est-à-dire, j'avais eu l'occasion de visiter Pibrac, et on a visité, je crois, la maison où elle est morte très jeune, je crois, à 16 ou 18 ans, quelque chose comme ça. C'était un peu l'employée de la ferme, si vous voulez, un petit peu, qui vivait sous un escalier. Et alors, cette Sainte-Germaine se trouve là, avec une... vous voyez, le petit mouton qui se trouve
qui est à gauche.
A dit qu'on est dans un monde rural,
oui,
et c'était elle, peut-être, qui s'occupait des moutons dans la ferme de Pibrac.
Bergère, d'accord.
Mais c'était un hôtel du 19e, vraisemblablement. Vous avez la reprise du décor en bois écotté, qu'on trouve dans l'arcade gothique, qui se trouve
de l'entrée
ici,
de cette chapelle,
de l'entrée
oui, oui.
De la chapelle. Alors là, c'est intéressant. Hein. Et la baronne, Madame de Goutte, adorait cette. Elle me disait que toute son enfance, elle venait assister à la messe ici. Elle était devenue très amoureuse de Sainte-Germaine parce qu'elle la voyait tous les dimanches, etc. Donc elle s'était devenue copine.
Ah, voilà. D'accord. Juste une petite précision. Marie-Madeleine, est-ce que vous avez peut-être des précisions à donner aux auditeurs concernant Sainte-Germaine?
C'est Sainte-Germaine de Pibrac, donc oui. Qui est à côté de Toulouse.
Mm-hmm.
Donc qui était bergère, comme l'a dit Christian. Qui est morte donc très jeune et dans la pauvreté, bien sûr la plus dure. Elle, il y a un miracle qui a été fait par Sainte Germaine, c'est que n'ayant rien à manger, elle avait chapardé un pain, du pain, et enfin chapardé. Plus ou moins, parce que on lui donnait quand même des nourritures et on l'a accusé de l'avoir volé, ce pain. Et puis donc, en fait, elle l'avait pas volé. Et quand elle a ouvert son tablier pour montrer le pain, eh bien, ce sont des fleurs à la place du pain qui sont apparues. Voilà, le tablier de rose, hein, voilà. Et bon, moi j'ai un souvenir personnel de Pibrac, puisque je suis toulousaine d'origine et qu'avec l'école où j'ai fait mes études, eh bien tous les ans nous allions en pèlerinage à Pibrac.
Christian vient de préciser donc cette table d'autel. Il y a des feuilles représentées,
des feuilles de chêne dorées, oui, qui rehaussent un petit peu ce marbre blanc, le tabernacle en particulier, et puis. Tous les côtés, les parties latérales du tabernacle, voilà.
Et alors concernant donc oui cette croisée d'ogives un peu spécifique, Marie-Madeleine, au bas de cette ce que j'appelle croisée d'ogives, il y a alors un mot que j'aime beaucoup.
Donc il y a des culs de lampe,
voilà.
Ce qu'on appelle des culs de lampe. Donc ils sont tous différents. Donc à droite de l'autel, il y a les mêmes armes que sur la clé de voûte.
Oui, voilà, on
avec
aperçoit
une croix,
oui.
Hein, avec une croix. Sur la gauche, il y a, eh bien, je pense que c'est le JHS, signifie Jésus-Christ.
Mm-hmm.
Voilà, à gauche.
Mm-hmm.
Ici, en face donc de l'autel, sur la gauche, il y a une très belle coquille qui préfigure un petit peu la Renaissance. Hein. Voilà, mais qui est fin gothique. Et à droite, alors c'est la fleur du Quercy que l'on retrouve en particulier au tympan, autour du tympan de la cathédrale de Cahors.
D'accord. Mais écoutez, merci. Nous allons peut-être sortir de cette chapelle pour aller en face. Alors passer par cette porte qui est magnifique au niveau de tout cet empierrement, et nous allons rentrer dans la sacristie. Donc nous dirigeons, nous repassons bien sûr dans le chœur. Voilà, pour nous diriger, nous passons d'ailleurs sur ce que j'ai appelé la semaine dernière un tapis où se trouvait l'ancien autel. Et nous allons vers cette sacristie, voilà, qui est très belle, tout en pierre. Voilà, nous y rentrons. Vous entendez d'ailleurs le changement d'acoustique. Alors, est-ce qu'il y a, voilà, quelque chose un petit peu... Ah, une très belle croisée d'ogives, Christian.
Oui, très simple, finalement, mais dont les culs de retombée, finalement, n'ont pas été sculptés. Ils sont vierges.
Oui, tout à fait. Effectivement, on les voit... Un tout petit peu différent chacun, mais vierge, effectivement, il n'y a pas de description ou quelque chose dessus.
On est amené à voir l'épaisseur des murs,
ah oui,
qui sont très importants, jusqu'à presque un mètre. Vous voyez, c'est une église très solide. On verra si on va à l'extérieur que du côté sud, il n'y a pas de contrefort, c'était pas nécessaire, mais il y a d'énormes contreforts du côté nord, parce qu'il y a la falaise qui tombe, etc. Donc pour être sûr de bien maintenir l'église, où il n'y a aucune fissure, l'église, je le disais l'autre fois, l'église est en très bon état.
Oui, la dernière émission,
architecturale,
effectivement, on l'avait spécifié.
Et on voit avec les deux petites fenêtres qu'il y a dans cette sacristie, l'épaisseur des murs, on a presque l'impression que ce sont des meurtrières, vous voyez,
oui, effectivement.
Il est vraisemblable que des petites fenêtres comme ça possédaient des petits vitraux qui étaient sûrement très charmants dans cette. Celui-ci est un côté sud, est un petit peu plus grand, mais on voit vraiment des ébrasements qui donnent de la lumière dans cette sacristie qui n'est pas très grande, qui doit être, je pense, oui, quand on l'a mesuré, la même dimension que la chapelle.
Dont nous venons, qui est en face, donc. Très bien. Et est-ce qu'il y a un autre élément de cette chapelle qu'on ne voit pas, qui se trouverait peut-être derrière le meuble ? Je ne sais pas, mais il me semble que vous aviez dit qu'il y avait peut-être quelque chose de caché par un meuble. Donc une ouverture ou quelque chose. Thérèse, voilà, elle nous le montre, Thérèse. Alors, hop, on enlève
le velours rose.
Voilà. Ah oui, effectivement, sur justement ce qu'on appelait, que Marie-Madeleine aime bien appeler en cul de lampe, c'est cela.
Oui, mais c'est toujours la rose du Quercy.
Et voilà, c'est cela. C'est cela. Donc il y a bien 4 culs de lampe et un seul est travaillé et sculpté. Donc et c'est la fameuse rose du Quercy.
Une dernière chose à dire pour les paroissiens, c'est que vous voyez, il y a plein de systèmes électriques, etc.
Oui.
À partir du moment où les cloches ont été électrifiées, on les commandait d'ici, il y avait une minuterie, donc tout était parti. Alors, ça doit exister encore, parce qu'on on a connu les cloches tirées à la corde. Alors, il y avait 2 campanières, dont l'une, c'est la fille de la première campanière qu'on a connue, qui est décédée maintenant, et qui habite en face, c'est la famille Torrent.
D'accord.
Alors, c'est Marie-Claude Torrent qui aurait dû continuer le travail de sa mère. Elle a dû le faire pendant un certain temps. Et puis ensuite, ça a été électrifié. Donc, les commandes se trouvaient ici, toute la partie électrique. Et les cloches, maintenant, sonnent à l'heure de l'Angelus, 7h le soir, etc. Et ça marche toujours très bien. On l'entend assez facilement.
Donc, nous allons ressortir cette sacristie. À droite, sur l'autel Marie-Madeleine, il y a 2 éléments importants pour une messe.
Oui, le calice et la patène. Donc, ils sont en vermeil.
Oui.
Avec un petit décor en émail. Sur le calice, il y a 4 dons petites effigies.
Oui.
Le Christ bénissant.
Oui.
Le Saint-Joseph avec son lys blanc et la Vierge. J'ai dit 4, il n'y en a que 3.
D'accord.
Et la Vierge avec les mains croisées sur la poitrine. Voilà.
Oui.
Et ensuite, donc la patène, eh bien, c'est le Christ, bien sûr, qui bénit. Hein, voilà. Et également un ciboire. Un ciboire, donc, pour les néophytes, c'est un calice avec un couvercle dans lequel on garde les hosties consacrées, c'est-à-dire la Sainte Réserve, et également donc sur le pied de ce ciboire, qui est pas tout à fait identique au calice, mais qui a aussi 3 éléments en émail, donc la Vierge à l'enfant, ici c'est la Vierge avec la croix, et ensuite une autre, alors c'est peut-être des saintes, parce que elles tiennent, alors là, je ne sais pas exactement quelles sont ces saintes. Il y en a une qui tient aussi une autre croix, mais différente. Mais enfin, ça, c'est la Vierge à l'enfant, il n'y a aucun souci. Et les 2 autres, donc, peut-être d'autres saintes. Voilà.
D'accord. Et Thérèse, ce sont des éléments importants, bien sûr, au niveau de l'Eucharistie. Ces éléments appartiennent à l'église d'Arcambal.
Oui, moi, je les ai toujours vus ici. Et on s'en sert tous les mois lors de la messe qu'il y a pour le dimanche, enfin le dimanche tous les mois.
Voilà, donc oui, donc il y a la messe une fois par mois à Arcambal, c'est ça?
Une fois par mois. Et au niveau paroisse, on est un peu regroupé avec Bégousse, ce qui fait que une fois on se retrouve ici, une fois on se retrouve à Bégousse, donc ce qui fait une messe tous les 15 jours. Pour les 2 églises regroupées.
D'accord, très bien. Mais écoutez, nous descendons, nous sortons du chœur, nous descendons une marche, on va essayer de ne pas tomber. Et donc, Christian, vous aviez quelques précisions à donner.
Oui, alors j'aimerais faire partager oralement aux éditeurs 3 ou 4 curiosités qui peuvent les intéresser. Alors, vous voyez, dans la première.
Alors, oui, alors donc nous allons aller dans cette chapelle qui se trouve côté...
La chapelle sud.
Côté sud,
dont,
voilà.
Dont on n'a pas parlé.
Voilà, non, on va y aller justement, on y allait. Alors.
Là. Une curiosité. Vous voyez, alors ça, on a une espèce de barrière en balustrade.
Oui.
Avec une entrée dans la chapelle.
Oui.
Qui est la période classique. Normalement, c'est daté du XVIIe siècle. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Mm-hmm. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a un balustre qui est monté à l'envers. Regardez celui qui est à gauche.
Ah oui, très
là.
Juste.
Il a la tête en bas.
Oui.
Voilà, donc ça, dans le livre, je l'ai dessiné. Dans la même chapelle, vous pouvez remarquer dans le fond, donc sur le mur sud,
oui.
Quelque chose que je ne m'explique pas non plus. C'est des traces dans les pierres. Donc on a découvert, oui. quand l'église a été décrépite, là,
oui.
on a l'impression qu'il y a une porte qui donnait sur l'extérieur.
Oui.
On a une arcade au-dessus qui normalement souvent est ce qu'on appelle un arc de décharge, mais en fait là il n'y a aucune raison d'avoir un arc de décharge. Donc on peut supposer qu'à un moment donné de l'histoire de l'église, il y a eu une porte qui sortait là, pourquoi une autre porte dans cette chapelle, je ne me l'explique pas.
Assez basse d'ailleurs, parce que si on en voit l'arc, elle n'était pas très haute apparemment. Hein.
Oh,
plutôt basse peut-être.
Suffisamment pour passer. Regardez,
oui,
on est
pour quelqu'un de grand, effectivement, c'était très bien. Alors, nous sommes dans cette chapelle, alors, au-dessus de ce que vous décriviez comme peut-être une porte, se trouve un vitrail. Alors, ce vitrail, Christian.
Alors, les vitraux, ce vitrail-là et celui qui se trouve dans la chapelle nord de l'autre côté,
oui.
ils sont semblables. Enfin, c'est exactement le même atelier. D'ailleurs, j'ai retrouvé les ateliers. C'est très petit, j'avais été voir ça d'un peu plus près.
Oui.
Ce sont des ateliers de Bordeaux et de Bayonne. Je crois que c'est, je me rappelle plus le nom, un grand, je crois, les ateliers un grand. Ce sont des grands ateliers qui ont travaillé en Amérique latine. Ce sont des ateliers qui travaillaient presque dans le monde entier. Donc, à Arcambal, nous avons des ateliers, des vitraux, faits par des ateliers,
qui sont
très importants et qu'on retrouve, j'avais noté, dans plusieurs églises ici, même dans tout le sud-ouest de la France, là, le nom de cet atelier est noté de temps en temps. On reconnaît un petit peu les styles. Donc c'est pareil, des ateliers qui étaient actifs entre les deux guerres, à mon avis.
D'accord. Alors Marie-Made, ce vitrail, vous pourriez nous le décrire là pour que nos auditeurs puissent savoir un petit peu qu'est-ce qu'il se trouve.
Alors ça représente la Sainte Famille, mais plus précisément dans l'atelier de Saint-Joseph. C'est Saint-Joseph artisan, et donc il est debout derrière son établi, il est en train de raboter une planche, et de l'autre côté de l'établi, vers nous, donc il y a la Vierge Marie à droite qui file la laine avec sa quenouille, et à gauche, Jésus, qui est déjà un peu grandé, hein, qui est adolescent, disons, et qui lui aussi tient une bûche plutôt qu'il est en train de d'écarrir avec une hache.
D'accord. Dans des couleurs
Dans des couleurs bleutées, marron, des couleurs très vives et réalistes.
D'accord. D'accord, très bien. Alors là, il y a un don aussi de famille. Alors Christian, peut-être vous allez nous lire un petit peu, peut-être nous parler ou si vous avez donc don des familles à la case
qui habitait au Paro, vous voyez. Alors le Paro, les Paros, c'est un mot qui fait partie de l'Arcambal.
D'accord.
Donc c'est une famille qui avait dû être, quand on avait un petit peu d'argent, quand on était chrétien, ils étaient de bon ton, de pouvoir offrir soit une peinture, soit un vitrail. Vous savez que les vitraux, c'est quand même des surfaces qui coûtent extrêmement cher. J'ai eu l'occasion de négocier un petit peu des vitraux anciens. Les faire acheter par quelqu'un, bon, je me rappelle plus son nom, etc. Mais au mètre carré, ça se calcule, disons, au mètre carré, le côté artisanal de la fabrication, simplement. Après, il peut y avoir un prix supplémentaire si l'artiste, le verrier, est connu plus ou moins,
un style,
ou un vitrail plus ancien, etc. Mais c'est une surface au mètre carré qui coûte cher. Voilà. Donc c'était des familles un peu fortunées qui pouvaient, comme le baron et la baronne dont on a parlé tout à l'heure.
Voilà. Alors, merci pour ces explications concernant ce vitrail. Et à la droite de ce vitrail se trouve un tableau. Alors, il y a un lien avec la Carmélite, je pense, oui, avec le premier tableau que nous avions décrit la semaine dernière. Alors, Christian, ce tableau, qui est très grand aussi, hein, qui est très beau, qui a été restauré, je pense.
Oui, alors, il a été restauré lorsque M. Pradal était maire. C'est lui qui a pris en charge par la commune la restauration de ce tableau, qui est répertorié, donc qui est du XVIIe siècle. Alors, il représente, dit-on, Louise de la Vallière, qui rentre dans les Carmes, etc.
D'accord.
Donc, il y a une mère carmélite qui l'accueille, mm-hmm, et derrière, il y a quatre personnages masculins qui ont l'air de soit la pousser, soit la retenir pour entrer aux Carmes,
oui,
etc. Mais quand même, quand on regarde un petit peu l'histoire de Louise de la Vallière, Louis XIV a eu quand même le temps de lui faire quatre enfants.
Oui,
donc,
oui, oui, oui.
Alors, elle a dû avoir une espèce de remords, et sur le tard, elle est... Alors, les quatre personnages qui sont derrière, est-ce qu'ils représentent symboliquement, parce qu'ils ont les rangés quand même,
oui,
les quatre enfants qu'elle a eu avec Louis XIV, peu importe, bon, je sais pas si c'est ça. Et il y a un paysage très monochrome derrière.
Mm-hmm.
Le tableau est en très bon état, vous le voyez.
Oui, ah oui, oui, très beau. Il est
c'est
très,
un,
très beau.
Sûrement un peintre professionnel.
Oui,
vraiment,
est-ce que nous n'avons pas parlé de la date de ce tableau ?
17e, c'est tout ce que je peux dire.
D'accord.
Comme le grand tableau de l'entrée.
D'accord.
Mm-hmm. La même date. Et dans l'autre chapelle, je ne sais pas si on va y aller après, il y a un autre tableau qui, lui, est plus curieux parce qu'il a une facture un petit peu naïve.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, c'est sûrement pas un grand peintre professionnel répertorié comme le peintre de ce tableau-là,
mm-hmm,
qui l'a fait et qui dont la scène est la scène. il est très touchant, ce tableau. On ressent presque plus le peintre en train de faire une œuvre de sa foi, si vous voulez.
D'accord.
Plus que celui-ci.
Alors effectivement, nous en parlerons la semaine prochaine, Christian, parce que il me paraît très très intéressant, mais comme beaucoup d'éléments de cette église d'Arcambal, que je vous incite à venir voir quand elle est ouverte et visiter, parce que c'est vraiment très beau. Marie-Madeleine, des précisions, alors peut-être par rapport à Louise de la Vallière.
Oui, Louise de la Vallière, on le sait, a été la maîtresse de Louis XIV dans les années 1660, 1665, voilà. Et elle a eu au moins trois enfants, Christian dit quatre, mais qu'on appelle les Bourbons. Les Bourbons,
ah,
hein,
d'accord.
Philippe de Bourbon, voilà. Anne de Bourbon, voilà, hein, Louis de Bourbon. Et donc elle a, après avoir été répudiée par Louis XIV, eh bien, elle est entrée au couvent des Carmes de Paris, de Saint-Jacques, et elle y a fini sa vie. Elle est morte en 1710, donc 5 ans avant Louis XIV.
D'accord. D'accord. Et pression sur les couleurs également.
Alors, les couleurs
qui
sont
très,
très vives, oui,
oui,
très très vives. Alors, par la carmélite, bien sûr, qui est en marron avec un voile noir et une collerette blanche, mais Louise de la Vallière est dans toute sa splendeur, elle est à genoux, elle arrive pieusement et modestement auprès de cette religieuse, mais elle a un manteau rouge écarlate et une robe par-dessous chamarrée, vert et doré, etc. Mais elle a déjà les pieds dans des sandales. Elle a déjà,
oui,
on en voit un.
Ah oui, le détail.
Elle,
oui,
a déjà un pied dans une sandale, et là, c'est déjà un signe de pauvreté et de modestie.
D'accord. Très bien. Oui, oui, effectivement, c'est un détail important dans l'évolution de la personne et du personnage.
Je l'avais noté dans le livre, ça, c'est que c'était curieux qu'elle a encore ses habits de cour,
oui,
vous voyez, et d'un seul coup, on voit qu'elle est pieds nus, alors,
oui,
qu'à la cour, sûrement qu'elle avait pas ses...
Oui, parce qu'effectivement, la couleur et les habits sont royaux, enfin, c'est,
oui,
c'est vraiment de très, très beaux habits. D'époque, mais effectivement la sandale, on ne voit que ce pied d'ailleurs,
oui,
on ne voit que lui qui ressort.
Oui, elle a encore son collier de perles et sa perle à l'oreille, donc voilà, il va falloir qu'elle se détache de tout ça et qu'elle abandonne tout
ça. Et oui, et oui. Alors,
tableau a été restauré en 1997,
d'accord,
je viens de retrouver la date.
Ah, voilà, très bien. Très bien, c'est bien d'avoir une bonne mémoire comme ça, Christian. Nous retournons, et face à ce tableau, il y a donc ce qu'on peut appeler, Marie-Madeleine...
Oui, un rétable.
Oui.
Un rétable en bois doré, qui est très joli, parce que finalement, la partie centrale, donc, qui est le tabernacle, on dirait une petite maison, en fait. On a une petite maison parce que il y a donc la porte du tabernacle où il y a deux anges, voilà, qui portent calice et palme. Et puis au-dessus, donc la porte est ornée d'un gable, ce qu'on appelle un gable gothique. Et de part et d'autre du gable, eh bien, il y a deux ouvertures. Ce sont deux fenêtres géminées. Et on dirait vraiment une maison
oui,
d'habitation. Hein, c'est l'habitation de Jésus, hein, sous forme d'hostie, bien entendu. Et de part et d'autre de la porte, donc, quatre niches. Donc superposés deux à deux, avec des saints représentés en rond de bosse, et voilà, qui... alors, pour les distinguer, je ne sais pas quels sont ces saints, est-ce qu'on peut les déterminer? Il y a un roi, apparemment, à gauche, mm-hmm. Est-ce que c'est Saint Louis? Ensuite, ici, il y a Saint Roch, à droite, et puis deux femmes en dessous, je n'arrive pas, elle n'a pas d'attributs particuliers, non, ce sont des saintes qui prient et qui ont les mains
Et au-dessus de tout cela,
un évêque.
Voilà.
Un évêque devant la croix, et donc il a perdu une main et qui tenait sans doute son attribut, donc on ne peut plus dire c'est.
Je l'avais identifié comme Saint Éloi, mais je ne sais plus pourquoi.
D'accord, il y a quelque chose qui avait fait dire à ce moment-là que c'était Saint-Éloi. Très bien, bah, écoutez, chers amis auditeurs, nous terminons cette deuxième émission dans l'église d'Arcambal. Merci à Christian, merci à Marie-Madeleine, merci à Thérèse et merci à Gilles. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et nous continuerons une troisième émission dans l'église d'Arcambal où nous allons découvrir une autre chapelle et d'autres éléments importants de cette église. Au revoir, chers amis auditeurs, à la semaine prochaine.